ça ne dérangera pas. Ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune 93.8 MHz sur Onde Femmes. Radio Zone, le revue ménage s'éteint. La pleine lune est dans ce ciel encore tout bleu. Avec cette heure d'été, on sent la pleine lune très très loin. Eh bien non, elle est là, dans vos oreilles. Comme tous les mercredis à 18h30. Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, c'est le 50 40 51 41 023 depuis Genève. Et je vous rappelle notre adresse, Onde Femmes sur Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Au programme ce soir, eh bien tout de suite nos nouvelles. Malheureusement, il n'y aura, je crois, pas de memento de Marjolaine ce soir. Elle s'est, il me semble, cassé quelque chose sur un coup de cœur. Je la salue bien, je l'embrasse. Alors Marjolaine, en tout cas, peut-être la semaine prochaine. Mais ce soir, un programme varié. Après nos nouvelles, quelques rendez-vous. Ensuite, à 21h, une interview de Corinne Chaponnière sur son livre « Le féminin ambigu ». Et puis de la musique avec les actrices qui se mettent à chanter. Mais tout de suite, dans quelques instants, les nouvelles sur 93.8 MHz. La semaine dernière, à Alger, une grande manifestation contre le terrorisme islamiste s'est déroulée, appelée par des mouvements de femmes. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé contre la violence et le dialogue avec les islamistes. On pouvait lire une grande pancarte où était écrit « Le silence est la mort, et toi, si tu te tais, tu meurs. Et si tu parles, tu meurs. Alors parle et meurs. » C'est ce que proclamait à Alger cette banderole qui surplombait les dizaines de milliers de manifestants qui avaient répondu à l'appel des diverses organisations féminines condamnant le terrorisme et rejetant tout dialogue avec les islamistes. La phrase, extraite d'un poème de l'écrivain et journaliste Tahar Daoud, assassiné en juin 1993, résumait à sa manière l'état d'esprit des manifestants. Nombreux, difficiles à compter, selon l'agence France Presse, ils seraient environ 50 000. Cela peut paraître peu face à ce qui se passe, mais c'est énorme face à la peur qui règne maintenant dans les rues d'Alger. Les manifestantes et manifestants sont partis de l'École supérieure des Beaux-Arts, dont le directeur Ahmed Assela et son fils ont été assassinés le 5 mars. À la tête de la marche se trouvaient la mère et la veuve d'Assela, suivies par une foule majoritairement féminine. Avant de se retrouver place d'Addis Abeba, devant le très officiel Observatoire national des droits de l'homme, terme de la marche, les manifestants ont crié « Trop de sang, trop de larmes, ensemble, sauvons l'Algérie » ou encore « Pas de miséricorde ni de dialogue avec les tueurs ». La banderole précisant « Négocier avec le fils, c'est négocier la reddition de l'armée ». Autre cible des manifestants, le président Zeroual et sa volonté réitérée de négocier avec les islamistes. L'Algérie et notre pays lui ont écrit les promoteurs de la marche dans une deuxième lettre ouverte. Nous refusons l'exil, la soumission ou la compromission. Nous voulons ensemble, avec les forces qui croient, nous battre ici et maintenant pour l'avenir de nos enfants, pour une Algérie de progrès, une Algérie démocratique, ouverte et tolérante. Des rassemblements identiques ont été organisés à Oran, Constantine et Arnaba, Tudzi Ouzou et Benjaïa en Kabylie. L'Union générale des travailleurs, le principal syndicat, et l'Union des entrepreneurs du secteur public avaient appelé pour leur part à un arrêt de travail à la mémoire des victimes des groupes armés islamiques. « À Genève, le Haut-Commissariat pour les réfugiés dénonce la poursuite d'assassinats et de viols dans la région de Banja Luka. C'est Sadako Ogata, la Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui a parlé de la situation en Bosnie. Si on peut dire qu'on voit quelques progrès, certaines régions restent encore terriblement soumises encore. C'est le cas, par exemple, de la région de Banja Luka, qui est un fief serbe du nord de la Bosnie, qui continue à être le théâtre d'assassinats et de viols. À l'issue de la troisième rencontre européenne sur l'avortement et la contraception qui vient de se tenir à Paris, les femmes ont peur et sentent leurs droits qui sont menacés. L'accès à la contraception et l'avortement recule dans toute l'Europe. C'est le triste constat dressé lors de ce congrès de femmes à Paris. Crise économique et vent de puritanisme à l'ouest, bouleversement politique à l'est, les causes sont diverses qui toutes tendent vers la même conséquence. L'accès de la femme à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse est menacé. Ce triste constat a été dressé par les 350 femmes qui se sont réunies de toute l'Europe et qui sont venues à Paris lors de cette rencontre européenne pour les droits à l'avortement et à la contraception. En Europe de l'Est, la pauvreté, surtout, est à l'origine de la détérioration du droit des femmes. Lorsque les moyens de contraception sont disponibles, ils sont hors de prix, réservés à une élite. En Russie, par exemple, la seule possibilité de régulation des naissances reste l'avortement, qui reste encore très cher. Ces pays sont aujourd'hui confrontés à la privatisation des soins médicaux. Par exemple, un avortement à Zagreb coûte deux mois de salaire, ce qui revient pratiquement à l'interdire. En France, dans les pays de l'Ouest européen, en France, les droits reculent aussi. Au nom de la maîtrise des dépenses de la santé, la sécurité sociale commence à limiter le remboursement des nouvelles pilules les plus perfectionnées. De nouvelles discriminations sociales voient également le jour. À Marseille, plusieurs cas d'infanticide ont été recensés suite à la détresse d'immigrés clandestines qui n'ont plus accès à l'avortement, de fait. Car avant l'arrivée de Charles Pasqua, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, pour pouvoir avorter, il faut montrer ses papiers et les clandestines passent donc par des avorteuses. En Allemagne, les restrictions à l'avortement aboutissent à un nouveau type de discrimination raciale. Par exemple, on cite le cas d'une gynécologue de Hambourg qui dit que les femmes turques peuvent avorter sans difficulté, on leur conseille même. Pour la citoyenne allemande, c'est beaucoup plus difficile, elle doit faire des enfants blonds si possible. Les commandos anti-avortement, qui véhiculent une idéologie chrétienne fondamentaliste, préoccupent les femmes des pays où le droit à l'avortement est reconnu. Ces commandos, issus de milieux protestants, nord-américains et catholiques européens, groupuscules très actifs en France. En 2 ans, ils auraient organisé une centaine d'actions. Ces commandos occupent, saccagent les locaux des centres d'avortement, humilient les femmes qui s'y rendent avec des pancartes et des cris. À ce jour, seuls 2 procès ont eu lieu. Et lors du dernier procès, un cardinal a même écrit une lettre de soutien à la militante accusée d'entrave à l'avortement. L'exemple hollandais contredit les idées reçues qui voudraient qu'une législation souple entraînerait une foule d'avortements. C'est le pays le plus libéral d'Europe et il enregistre le taux d'avortement le plus bas, moins de 5 femmes pour 1000. Ce taux est 10 fois plus élevé en Pologne, devenue depuis très restrictive. C'est dans ce contexte qu'en Suisse, le Conseil national devra voter en juin prochain l'entrée en matière sous l'initiative parlementaire déposée par la socialiste zurichoise Barbara Binder, qui propose la dépénalisation de l'avortement. Les femmes progressistes sont optimistes sur ce vote. Un retour de l'ordre moral conservateur semble moins évident en Suisse. Elles savent toutefois qu'un référendum sera immédiatement lancé par les membres du mouvement Oui à la vie. Le peuple devra alors une fois encore déclarer s'il veut bien accorder à la femme le droit de choisir. En Pologne, depuis la chute du communisme et l'ouverture des frontières, un trafic de nouveau-nés polonais et d'adoption plus ou moins légale de jeunes enfants par des couples étrangers se multiplie. 150 000 francs le garçon, 120 000 francs la fille, et c'est le tarif que demandait Marianne aux couples occidentaux pour pouvoir adopter un enfant polonais. Marianne, père de famille de 34 ans, achetait les nouveau-nés à des jeunes filles de milieu modeste pour quelques centaines de francs. Remarquez déjà la différence de prix entre filles et garçons. et bien sûr entre la famille et l'intermédiaire. 31 bébés au moins ont ainsi pris le chemin du Canada, de l'Allemagne, avant que Marianne ne soit arrêtée par la police polonaise. L'homme comparaît enfin devant un tribunal. Il s'agit du premier procès pour trafic d'enfants qui n'ait jamais été organisé en Pologne. Car la Pologne est devenue l'une des principales réserves de têtes blondes de l'Est. C'est ce qu'estime la directrice de l'association des Amis de l'Enfance, un organisme d'État chargé des adoptions en Pologne. Mais les trafics continuent bien sûr malgré ce procès. Depuis la chute du communisme et l'ouverture des frontières, les adoptions illégales de petits Polonais se sont multipliées. Au-delà du trafic organisé par des intermédiaires, les méthodes d'adoption parallèles se diversifient. Moyennant finance, certaines Polonaises déclarent au tribunal civil que le père de leur enfant est étranger et envoient l'enfant le rejoindre en France ou en Italie, respectant en apparence toutes les formes de la légalité. D'autres préfèrent aller accoucher à l'ouest et y abandonner leur enfant dans des familles prêtes à financer les frais de transport et à dédommager éventuellement la mère. Alors qu'au début des années 80, le nombre des adoptions oscille entre 60 et 90 en Pologne, il a dépassé 650 l'an dernier. Il a donc décuplé. Les Français sont les premiers adopteurs, suivis par les Suédois, les Américains et les Italiens. Pour lutter contre les trafics, les autorités polonaises envisagent de durcir les procédures d'adoption par les parents étrangers. Mais comme beaucoup de spécialistes de l'adoption le savent, la responsable de l'association des Amis de l'Enfance déplore que les Polonais assistent aussi passivement à l'exode des bébés vers l'étranger. Tant que tout le monde y trouvera un intérêt, dit-elle, les Occidentaux continueront à venir se servir. En Suisse, l'égalité au cœur d'un nouveau débat, mais celui-ci, ce n'est pas entre hommes et femmes, mais entre homosexuels et hétérosexuels. En effet, les couples homosexuels sont en quête de reconnaissance. Une pétition fédérale vient d'être lancée, soutenue par des personnalités de tous les horizons. Elle demande la fin des discriminations juridiques touchant les couples homosexuels. Une pétition adressée donc aux chambres fédérales demandant que les homosexuels bénéficient des mêmes droits que les couples mariés a été lancée à Berne. Le texte revendique notamment le droit au séjour pour le partenaire d'origine étrangère et l'égalité de traitement en cas de maladie ou de décès du conjoint. C'est ce qu'a indiqué à la presse le comité qui s'intitule « Les mêmes droits pour les couples de même sexe ». Le but de cette pétition est d'instituer une reconnaissance légale des couples homosexuels dont la relation est durable. Et on ne sait pas encore par quels moyens, mariage, reconnaissance du partenariat, concubinage, extension du système du concubinage pour les hétérosexuels. Là, la méthode n'est pas encore choisie, mais le débat est ouvert. D'ailleurs, le comité veut aussi favoriser une prise de conscience au sein du public et du monde politique. Le texte est soutenu par différentes organisations et personnalités, ainsi l'Organisation suisse des lesbiennes, Pink Cross et des nombreuses personnalités politiques et scientifiques, religieuses et culturelles. Le comité compte quelques 25 personnes provenant de toute la Suisse. La nouvelle Madame Égalité, Patricia Schulz, fait d'ailleurs partie de ces quelques 200 personnes qui ont de toutes tendances politiques qui ont soutenu cette pétition. À l'opposé de ce qui se passe au Danemark, Patricia Schulz penche plutôt pour la création d'un statut pour tous les concubins. Cette solution aurait l'avantage, contrairement à un statut spécifique, de ne pas créer d'autres discriminations. Le Genevois Laurent Rebeau, conseiller national écologiste, soutient aussi le texte car il connaît des personnes confrontées à cette situation et ces dernières, dit-il, sont contraintes à des contorsions administratives inutiles et pénibles. Souvent, cela crée des situations illégales. Comment résoudre le problème? Peu importe la forme juridique, mais si on crée un statut, il faudra bien faire attention aux critères de la durée, sinon il risquerait d'y avoir des abus. Fin de citation. La situation en Suisse est d'ailleurs plus ou moins la même que dans tous les pays d'Europe, bien que, vous vous en souvenez, le 8 février, une majorité du Parlement européen a invité les États membres à reconnaître aux couples de même sexe les mêmes droits et devoirs qui découlent d'un mariage entre homme et une femme. Peu des pays sont en effet engagés dans la voie de la reconnaissance juridique des couples homosexuels. Bien sûr, le Nord fait exception. Le Danemark, puis la Norvège ont adopté une juridiction qui met quasiment sur pied d'égalité les partenaires homosexuels et les couples mariés. Cette loi s'appelle le partenariat enregistré. Cette disposition permet aux lesbiennes et aux homosexuels de faire enregistrer officiellement leur couple et d'acquérir de ce fait pratiquement les mêmes droits et obligations que ceux que le mariage confère aux conjoints. À deux exceptions près, ils ne peuvent pas avoir d'enfants ni en adopter et ni adopter le conjoint du membre d'un couple ne peut pas être adopté par l'autre membre. En Suède, les autorités ont plutôt visé à établir une égalité entre les couples homosexuels et les concubins hétérosexuels. Dans le cas de la France, il y avait un projet de contrat d'union civile qui visait à régler le statut des concubins, mais il a été complètement enterré par l'Assemblée nationale. Cependant, les homosexuels ont obtenu, à travers une loi qui porte sur les diverses mesures d'ordre social, une certaine égalité, entre autres en ce qui concerne les assurances sociales et le droit du bail. Espérons que cela fera avancer la situation également en Suisse. Toujours en Suisse, les infirmières romandes en formation seront peut-être de nouveau rémunérées. C'est ce qu'a décidé la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales qui a écouté et compris les critiques du milieu infirmier. Ça se passera partout en Romandie, sauf à Genève, où l'indemnité là n'est pas supprimée. L'indemnité est toujours supprimée. Les infirmières et donc infirmiers romands en formation continueront donc d'être rémunérés, si on peut appeler ça rémunéré, puisqu'il s'agit d'environ, aujourd'hui d'environ 600 francs, et il s'agira bien moins dans le futur. Cette allocation sera en effet réduite. Après avoir décidé l'an dernier de supprimer leur salaire mensuel, la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales est revenue sur cette mesure. Dans les associations professionnelles d'infirmières, on n'est pas toujours très content. Donc à Genève, rien. Les infirmières qui vont au bon secours, c'est fini, ne toucheront plus un copec, bien qu'elles travailleront puisqu'elles continueront à faire des stages et elles auront toujours un statut plus ou moins assimilé à celui d'apprenti puisqu'il n'y a toujours que 4 semaines de vacances par an. Donc, excepté Genève, qui maintient la suppression de l'allocation, tous les cantons romands ont accepté une indemnité annuelle de 4 800 francs, c'est beaucoup, pour les infirmières en formation alors qu'auparavant elles recevaient environ 10 000 francs. Mais en outre, un système de bourse complémentaire est actuellement à l'étude. Là encore, chaque canton est chargé de mettre en place son propre système. On ne devra en tout cas pas arriver aux 10 000 francs par an qu'il y avait avant, mais aider peut-être les étudiantes et étudiants les plus démunis. Cette nouvelle décision, comme je vous l'ai dit, ne fait pas le bonheur des associations d'infirmières. Et selon Edna Chevalet du secrétariat central de l'Association suisse des infirmières, cette nouvelle décision prouve que le but premier est non pas d'améliorer le statut des étudiantes et des infirmières, mais bien sûr de réaliser des économies sur le dos des plus démunis. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Dans quelques instants, quelques rendez-vous.
They tell you he's not right
Vous êtes sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Ondes Femmes, Radio Zone. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis Berne. Je vous rappelle aussi notre adresse, Ondes Femmes sur Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Et bien sûr, malgré que Noël est loin, nous avons toujours... c'est bientôt Pâques. Alors, pour nous acheter des œufs de Pâques, n'oubliez pas, vous pouvez nous acheter une carte d'auditeur ou d'auditrice. Ça nous permettra d'aller nous acheter un œuf en chocolat. Bien, j'aimerais encore vous donner quelques rendez-vous. Vous savez que pour les femmes et les jeunes adolescentes, il existe des stages d'autodéfense pour apprendre, effectivement, à révéler à toute femme son potentiel de force et sa puissance. Et puis... apprendre très concrètement à être en mesure de se défendre si on est attaqué ou dans des situations où la peur finalement nous paralyse. Et ces stages sont toujours intéressants dans la mesure où on rencontre d'autres femmes, on en discute, on est avec des femmes qui vous apprennent à partir de techniques créées juste à cette fin, à faire non seulement avoir les gestes qui peuvent être utiles, mais surtout à prendre conscience de la manière dont on peut diriger notre force. Alors, il existe donc des stages. Le prochain stage a lieu le 7... excusez-moi. Alors, le prochain stage est pour adolescentes entre 12 et 15 ans. Et ça a lieu le 16 et le 17 avril. Et ces stages, si vous avez, si vous êtes adolescente ou si vous êtes la mère ou la tante d'une adolescente, vous pouvez lui conseiller. Je trouve que c'est très, très utile. Sinon, pour les adultes, femmes adultes, le prochain stage est le 23-24 avril. Alors, si ça vous intéresse, je vous donne un numéro de téléphone à Genève, le 734-55-56. Je vous le répète, à Genève, le 734-55-56. Un peu de musique. Bien, le groupe des femmes en noir qui depuis des mois se réunit chaque premier jeudi du mois pour protester contre la guerre en Yougoslavie se réunira au début avril, c'est le 7 avril. Je vous donne déjà le rendez-vous puisque la semaine prochaine c'est Pâques et nous ne sommes pas là. Alors, d'ailleurs, une autre information dont nous avons déjà parlé, le groupe des femmes en noir à Genève soutient un projet très intéressant qui est un centre de thérapie pour femmes en Bosnie-Herzégovine, le centre Medica. Donc là aussi, un appel de fonds, de soutien est demandé. Pour toute information, vous pouvez écrire à Femmes en Noir auprès de EFI, E-F-I, 2 rue de la Tannerie, 1227 Carouge. 2 rue de la Tannerie, 1227 Carouge. Je vous rappelle que le prochain rendez-vous, le prochain rassemblement, ça a lieu le 7 avril. À 18h15, ça se passe à la place de la Fusterie à Genève. Le syndicat de la fonction publique, le SSP, organise des cours pour femmes. Le prochain cours a lieu en avril, c'est 28 et 29 avril, sur le thème de l'histoire des femmes. C'est donc... un cours qui est donné, qui est animé par Thérèse Moreau, enseignante, écrivaine et historiographe, et qui nous fera le tour d'une histoire écrite au féminin avec des grands noms et des petits noms. Autre cours plus lointain, mais je vous donne déjà l'information. En juin aura lieu un cours sur le thème « Je suis femme et je travaille » avec une gestalt-thérapeute, Monique Gigas-Étienne. Et en octobre, aura lieu un cours sur le thème de la sensibilisation au sexisme, animé également par Thérèse Moreau. Et puis le Centre Femmes Nathalie Bernet fermera une semaine à Pâques, mais le samedi 9 avril, un bal est prévu pour fêter le printemps à partir de 22h. Et puis, je vous rappelle que le 12 avril, vous devez vous préparer pour la grande manifestation anti-Malville. Vous savez qu'il y a un projet de faire redémarrer Malville, qu'il y a une marche qui va de Malville à Paris et à Matignon. Et le 12 avril, cette marche européenne fait escale à Genève. Il faut donc la recevoir, l'accueillir, mais surtout montrer la détermination des Genevoises et des Genevois à dire non à cette connerie que représente Malville. J'aimerais encore vous signaler que l'association Graffiti, l'association des historiennes qui vous font des balades, qui vous organise des balades à Genève, va reprendre à partir d'avril ces balades. Nous en avions déjà parlé, l'association de ces femmes qui nous raconte l'histoire des femmes à Genève, donc Graffiti, organise leur histoire à travers une promenade. On passe à Genève dans dans cette ville et on y retrouve des fragments qui évoquent les femmes et surtout leur travail. Bien sûr, il y en a peu à Genève, mais ces femmes historiennes ont fait un magnifique travail et je vous conseille au printemps d'aller faire une promenade. Vous pouvez soit le faire par groupe, soit individuellement. Les dates ne sont pas encore fixées, mais vous pouvez vous inscrire à la librairie L'Inédite. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est à Genève, le 343-22-33. Je répète, 343-22-33. Sinon, vous allez directement à l'Office du tourisme et vous vous inscrivez. Les visites seront organisées. Vous pouvez d'ailleurs soutenir cette association Graffiti pour tout renseignement. Vous téléphonez à la librairie des femmes. Et puis, si vous avez des problèmes de garde d'enfants, si vous avez des petits-enfants, rappelez-vous que la Croix-Rouge offre un service de garde d'enfants qui s'appelle le Chaperon Rouge. Vous pouvez donc lui téléphoner à Genève au 780 06 66. Voilà, nos informations sont terminées. À très bientôt. Bye bye. About it.